Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis
et avec la réalisation Nancy Zottier. Le thème de ce soir est consacré au deuxième festival du printemps des migrations qui se déroulera dans quelques jours à Nice. Depuis toujours, l'humanité a été en mouvement. Certaines personnes se déplacent pour trouver un travail ou d'autres perspectives économiques, pour rejoindre leur famille ou pour étudier. D'autres se déplacent pour fuir un conflit, des persécutions, le terrorisme ou des violations des droits humains. D'autres encore n'ont d'autre choix que de se déplacer face aux conséquences des changements climatiques, aux catastrophes naturelles ou à d'autres facteurs environnementaux. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, dans le monde, si le nombre de migrants internationaux a augmenté depuis les années 60, passant de 150 millions à 280 millions en 2020, leur proportion est restée relativement stable en raison de l'augmentation de la population mondiale et représente environ 3,6% de la population de la planète. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes vivant dans un autre pays que celui dans lequel elles sont nées. Selon l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'une part, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et deuxièmement, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Pourtant, nous savons tous les freins, les barrières, les murs que les États et de nombreux citoyens dressent lorsqu'il s'agit d'accueillir des étrangers, qu'ils viennent de l'autre bout du monde ou de la ville voisine. L'étranger est souvent perçu comme celui qui nous dérange dans nos habitudes parce qu'il ne pense pas et ne vit pas comme nous. Et pourtant, quelle richesse que celle de pouvoir ouvrir nos regards et nos esprits à celles et ceux qui sont différents de nous. C'est là le véritable moteur de l'humanité. L'an dernier, un collectif d'une vingtaine d'associations et ONG a organisé pour la première fois à Nice le Festival du printemps des migrations. Un festival pour inviter les citoyens à migrer, d'art en art, de quartier en quartier, sans frontières, pour le droit à migrer, pour la liberté de circuler, pour l'égalité des droits, pour réfléchir aux questions de la migration et de l'exil. Un festival de rencontres au-delà de nos préjugés, de nos conforts et de nos peurs. Cette année, un deuxième printemps des migrations est organisé à Nice. Il débute le 6 avril et durera jusqu'au 28. Aussi, pour nous faire découvrir ce festival et nous ouvrir au monde de la migration, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Aveline, Marcel Monzeglio et Jean Corbucci, tous trois membres du comité d'organisation du deuxième printemps des migrations. Mais auparavant, nous prenons comme d'habitude le temps d'une pause musicale pour écouter « Au feu rouge » de Grand Corps Malade.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme paquetage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Nous recevons aujourd'hui trois invités qui appartiennent au réseau Éducation sans frontières, RESF. Donc bonjour Michel Aveline.
Bonjour.
Bonjour Marcel Monzeglio.
Bonjour.
Bonjour Jean Cambucci.
Donc,
vous êtes ici parce que vous êtes dans l'organisation d'un projet commun qui s'appelle le Printemps des Migrations. Dans un premier temps, nous allons le présenter très très grossièrement, dans les grandes lignes, savoir un petit peu pourquoi il est organisé. Nous parlerons de la situation de la migration dans le monde de manière globale, ses problématiques et la situation particulière dans les Alpes-Maritimes et surtout sur les mineurs non accompagnés. Et dans un dernier temps, nous reviendrons sur ce qu'est exactement ce printemps des migrations, qui est une belle manifestation. Donc, à l'origine, c'est quoi ce printemps ?
Le Printemps des Migrations, en fait, c'est un collectif qui vient d'une initiative citoyenne. En fait, c'était pour le droit à migrer, pour la liberté de circuler, pour l'égalité des droits et aussi contre les politiques migratoires répressives et violentes. C'est un festival indépendant, sans ressources. C'est également, ce festival traite de manière très festive des questions relatives à la migration et à l'altérité. Donc, sous forme très artistique, danse, théâtre, débat, film, projection, dans tous les quartiers de Nice, en fait, en allant de l'Ariane, Libération, la place Garibaldi, la promenade des Anglais, les Moulins, le quartier des Moulins à Nice, voilà.
Donc multiforme et également protéiforme dans le nombre de personnes qui s'impliquent, puisque je crois qu'il y a une douzaine, voire une quinzaine d'associations qui sont partenaires impliquées dans ce collectif.
Il y a plusieurs associations, oui. Il y a par exemple Amnesty International, vous avez Emmaüs Roya, le Grain de Sable, la CIMAD, la Ligue des Droits de l'Homme, les Diables Bleus, Menton Réfugiés Help, vous avez le mensuel Mouet, qui est à Nice. Vous avez le Pays de Faïence solidaire, le planning familial, la Roya citoyenne, Emmaüs Roya, Sciences Po, Menton. Menton, le Secours catholique, SOS Méditerranée, tous citoyens et bien d'autres encore.
Oui, donc un ensemble à la fois de grandes ONG, puisque certaines sont internationales, et effectivement beaucoup plus locales. Donc beaucoup c'est ce brassage locales. Qui fait la diversité de ce qu'on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations similaires dans d'autres départements de France ? Je me suis posé la question, est-ce que vous le savez ?
Dans d'autres départements, je ne sais pas. Il existe au mois de juillet les passeurs d'humanité dans la Roya, qui est un petit peu similaire, si on veut.
Mais donc, c'est un sujet et une manifestation pionnière. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, par rapport à RESF, j'ai toujours du mal avec les acronymes, quelles sont vos motivations pour vous impliquer dans l'organisation de cette manifestation ?
Alors, le réseau Éducation sans frontières trouve son origine dans des arrestations de parents à la sortie des écoles dans la région parisienne. Voilà. Je situe le lien vraiment avec les enfants scolarisés. Et le réseau se crée à ce moment-là, autour de parents d'élèves et d'enseignants, de directeurs, directrices d'école, qui se sont indignés de ces comportements, voilà. Et du fait qu'on arrachait des enfants à l'école et qu'on retrouvait des familles dans des centres de rétention. Donc, RESF est intimement lié au problème de la migration des familles, que ce soit des familles avec un couple et des enfants, que ce soit des femmes, familles monoparentales, parce que nous suivons les situations de, pour que les enfants soient scolarisés. On essaie de les aider à avoir une vie décente. Voilà, dans l'introduction, on a cité la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date de 1989. Elle garantit le droit à l'éducation, à la santé, à un logement convenable. Et cette convention, elle est loin d'être respectée.
Donc, oui, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas à égalité sur le territoire français entre ceux de parents français dans la vie et ceux qui sont parents d'immigrés.
Ou, voilà, de parents français ou de parents étrangers, mais qui vivent avec des autorisations de séjour, voilà, qui vivent dans, on va dire, légalement en France. Les personnes qui sont en demande d'asile, qui est une situation légale, ou qui sont déboutées, mais qui restent ici, parce que repartir où, comment, voilà. Même les ordres de quitter le territoire français, il y en a très peu qui sont réalisés, parce que c'est très très compliqué. Il y a des gens qui n'ont
pas... On va en reparler, effectivement, voilà, des procédures qui existent, mais effectivement, votre spécificité, c'est les conséquences de ces politiques sur les enfants.
Voilà.
D'accord.
Et parce que, effectivement, les conventions internationales ne sont pas respectées.
Concernant ce printemps des migrations, est-ce qu'il y a des actions spécifiques vers les enfants, les scolaires, les jeunes, ou c'est beaucoup plus global ?
C'est ouvert à tout public. Il y aura, je ne sais plus quel jour, un après-midi enfant avec des jeux dans le quartier des Moulins, en fait.
Il y aura, avec Terre solidaire.
Oui, et il y aura sous forme de tag, de jeux de tag, etc., dans le quartier des Moulins. Oui.
Donc effectivement,
mais c'est ouvert à tout public aussi, non, oui.
Jean ?
Oui, il y a également le 11 avril une réunion des syndicats enseignants au lycée Pierre Sola à Nice. Où nous sommes invités, concernant les problèmes des enfants de migrants, d'immigrés, dans les écoles.
Oui, donc en fait, le printemps des migrations draine d'autres intervenants que ceux qui participent ou qui l'organisent. C'était un des objectifs de ce printemps, de pouvoir faire passer le message. Quelles sont vos attentes par rapport à ces manifestations ?
C'est en fait de faire passer le message que la migration, qui est vue comme quelque chose de mauvais, de mal, de faire passer le message que les migrants, ce sont des gens comme tout le monde, qui ont fui, qui souffrent, et qu'il faut arrêter d'avoir des idées préconçues sur tout ce qu'on entend, sur tout ce qu'on voit, etc. Donc le faire sous forme culturelle, avec des jeux, du cinéma, des projections, etc., ça nous permet peut-être de toucher un public beaucoup plus grand et d'essayer de faire comprendre ce que sont vraiment ces personnes.
Et est-ce que vous aurez une couverture médiatique suffisante ou
on l'espère.
Oui, c'est un petit peu... C'est un sujet
on
délicat,
l'espère.
On ne va pas se cacher. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles à ce sujet. Dans le meilleur des cas, je dirais indifférent et dans certains cas même agressif vis-à-vis des migrants.
Surtout que nous sommes dans une région frontalière où c'est très difficile. Nous avons les autorités municipales, départementales, etc., régionales, qui ne nous aident pas vraiment. Donc c'est assez difficile d'avoir une couverture médiatique importante, en fait.
Nous espérons que cette émission pourra apporter sa contribution. Alors, ce que j'aurais aimé savoir par rapport à vous, donc vous personnellement, qu'est-ce qui vous engage dans ce processus d'aide aux migrants, aux enfants ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement incité à militer sur ces sujets-là ? On a évoqué certains sujets, le respect du droit, les enfants. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement ? Pourquoi vous êtes dans ce comité d'organisation ? Marcel ?
Moi, j'ai fait allusion à la création du réseau. J'étais enseignante et conseillère municipale. Donc, en tant qu'enseignante, j'ai croisé des enfants de migrants et j'ai été sensibilisée à des situations qui peuvent être vraiment difficiles. On avait aussi une communauté de Roms qui habitait un squat sur Grasse. et qu'on a soutenu, voilà, parce qu'ils étaient menacés d'être expulsés. Et on a, par exemple, fait tout un accompagnement pour que le maximum puisse être logé, sur Grasse ou dans d'autres communes. Et j'ai en plus été sollicitée par le réseau pour faire une action qui est assez importante, assez centrale dans le réseau Éducation sans frontières, c'est le parrainage. Voilà. On parraine des enfants et leurs familles. C'est-à-dire qu'on va accompagner... alors, ce qui est vraiment très technique, administratif, il y a d'autres structures, mais on accompagne le cheminement. Voilà,
dans le quotidien, en fait.
Dans le quotidien, dans le suivi de papier, dans la prise de contact, dans l'inscription, dans les écoles, veiller à ce que les enfants puissent aller à la cantine, parce que les familles sont souvent logées dans des conditions... avec un manque de confort extrême, des petits hôtels où la famille se retrouve dans une chambre, on ne peut pas cuisiner. Donc la restauration scolaire, c'est le repas chaud et équilibré, 4 jours par semaine. Voilà. C'est un exemple très concret. D'accord. Et il y a bien d'autres aspects. Hein. On essaie, lorsqu'on fait le parrainage, on fait à 2 personnes pour pouvoir se relayer, s'épauler. On fait aussi des sorties, on peut amener les enfants au cinéma, on peut faire des sorties au musée, dans un parc, et essayer de faire des échanges aussi entre les enfants de différentes familles.
D'accord. Et Jean, qu'est-ce qui vous a incité à aller dans ce réseau-là, les mêmes motivations ?
Les mêmes raisons que Marcel, parce que moi aussi j'étais enseignant, et comme je m'occupais de formation des enseignants, j'ai une petite anecdote qui concerne Grasse d'ailleurs. Un stage d'enseignant de Grasse dans un quartier difficile, comme on dit. Hein, maintenant, il n'y a plus que des quartiers difficiles. Cette classe était composée d'une quantité de nationalités assez impressionnante. Et la prof d'école, pardon, qui organisait le travail, avait fait rédiger un conte à cette classe. En se servant de toutes les traditions de chaque enfant, que les familles racontaient. Et ça avait donné lieu à un résultat extraordinaire. Alors, c'est une anecdote qui simplement prolonge un peu ce qu'a dit Marcel. Maintenant, sur le plan personnel, ce qui m'a toujours motivé, mais depuis très longtemps, c'est que j'ai un nom qui n'est pas d'origine française, vous l'avez compris. D'ailleurs, les Italiens qui ont mon nom sont parfois célèbres. Mon grand-père, quand il est arrivé, je suis la deuxième génération. Oui. Et quand mon grand-père est arrivé, on l'a traité de sale macaroni, comme on a traité autrefois les Juifs ou d'autres personnes comme ça. Et ça j'ai essayé de ne pas l'oublier. Certains l'ont oublié, ils sont même tête de liste dans certaines élections européennes. Ils sont de la deuxième génération aussi. Et c'est regrettable, quoi, parce qu'en fait, ils font de l'immigration leur principal cheval de bataille. C'est dommage, voilà.
Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier que le comté de Nice a toujours été une zone de passage.
Exactement.
Et d'accueil, et certaines générations actuelles
les oublient. Il suffit de regarder l'annuaire des noms à Grasse, comme à Nice, ou sur toutes les Alpes-Maritimes, et on trouvera...
Oui, puis il y a eu des vagues successives. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu que les Italiens, il y a les Russes, il y a les...
Bien sûr.
Oui, mais l'histoire de la France, mais pas que de la France, de la Terre entière, vous l'avez rappelé dans l'introduction, c'est une histoire de déplacement de population.
Les États-Unis n'ont été créés que par des migrants.
Enfin, il y avait les Indiens avant.
Oui, mais les États-Unis. Je ne parle pas des peuples autochtones, mais le voilà.
Oui, il y a des histoires de déplacement de population dans la terre entière. Il y a des livres là-dessus, et ça se paraîtrait extrêmement dangereux et terrible d'imaginer qu'on supprime la possibilité des déplacements humains.
Justement, pour élargir un petit peu le débat, est-ce que vous pouvez nous faire un topo sur l'immigration, sur les migrations actuellement, sur la situation dans le monde et puis effectivement en France, et après on viendra sur la situation locale dans les Alpes-Maritimes.
Situation dans le monde, c'est un peu difficile. J'ai choisi de vous citer les origines des migrants, mais pas qu'en France, effectivement, de manière assez générale, et qui concerne en tout cas l'Europe, et dans l'ordre d'importance, voilà, pour situer un petit peu les mouvements de population actuels. L'Afghanistan, la Guinée, la Turquie, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, le Congo, la Géorgie, le Soudan, la Russie, la Syrie, l'Iran, le Sri Lanka, le Nigeria. Voilà pour les mouvements de population les plus importants. Quelques chiffres pour la France, pour remettre un petit peu aussi les choses à leur place par rapport au discours d'invasion, de risque que les Français soient submergés par des vagues d'étrangers. Il y a à l'heure actuelle en France, donc nous sommes pratiquement 68 millions d'habitants, il y a 7,7% d'étrangers, mais d'étrangers au sens large. Les personnes en situation irrégulière ou demandeurs d'asile qui n'ont pas de permis de séjour, il y en a 600 000. On reste bien au-dessous d'1%. Voilà, je pense que c'est important à situer.
Bien sûr.
Et en 2022, il y a eu 140 000 demandes d'asile en France, 250 000 en Allemagne, qui compte 83 millions d'habitants. Donc, nous sommes loin en plus d'être le pays...
Où on accueille le plus d'étrangers.
J'allais dire, voilà, le plus attractif qui accueille le plus d'étrangers. Ce n'est pas le cas. Voilà, ça reste assez stable et très raisonnable. Il y a 323 260 titres de séjour délivrés en 2023. Et pour un tiers, ce sont des étudiants qui sont concernés.
Oui, parce qu'on a évoqué effectivement dans l'introduction les diverses modalités de migration. Mmh. Il y a effectivement ceux qui fuient un état de guerre, il y a ceux qui fuient une situation économique désastreuse, mais il y a aussi les gens qui migrent parce qu'ils cherchent un emploi ou ils suivent des études, ils rejoignent leur famille. Il y a divers cas de mouvement des populations.
Et les étudiants, c'est un cas un peu à part parce qu'il y a des personnes qui fuient et qui cherchent à se former, à étudier. Et puis, il y a des gens qui viennent étudier en France.
Comme les Français vont étudier à l'étranger, voilà. Ou les Européens de manière générale.
Okay. Et d'accord. C'est vrai que souvent, ils viennent de pays où l'offre de formation est moins intéressante. Voilà. Mais c'est aussi, je pense, une richesse d'accueillir des étudiants qui viennent d'autres pays.
Mais c'est important de rappeler effectivement et de ramener à juste proportion ce phénomène migratoire qui effectivement dans les discours politiques prend l'effet d'une invasion alors qu'il n'y a pas d'évolution défavorable dans ce sens-là et que ce n'est pas un danger en soi. Justement par rapport à ce qui se passe à Vintimille, il y a effectivement une baisse des arrivées actuellement qui est liée au fait que les routes migratoires en ce moment évoluent un peu vers l'Espagne, enfin les Canaries. Et est-ce qu'il y a eu des modifications? Il y a eu une modification au niveau d'une décision du Conseil d'État qui a empêché les reconduites systématiques à la frontière. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ce point? Est-ce que ça, vous avez vu une situation évoluer sur le terrain?
Du point de vue de la reconduite à la frontière, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis, même malgré la décision du Conseil d'État. Il y a toute une série d'attitudes qui font que les trains sont contrôlés de façon aggravant, je parle de Menton.
À Menton, oui.
Les trains sont contrôlés de façon systématique et le contrôle s'effectue bien sûr sur les gens qui ne sont pas particulièrement, qui n'ont pas la même couleur de peau que la nôtre. Voilà. Et souvent, dès que ce contrôle a été fait, la personne est renvoyée en Italie sans autre forme de procès, y compris d'ailleurs quand ce sont des mineurs.
Alors justement, qu'en est-il actuellement de la situation des mineurs non accompagnés ?
Eh bien, les mineurs non accompagnés sont d'une part reçus à la frontière et souvent avec des questionnaires rapides qui ne sont pas légaux. Hein. On juge qu'un tel n'est pas mineur et donc on le renvoie. Et quand ils sont accueillis, à Nice, vous avez peut-être été au courant de tout ce qui s'est passé à l'automne dernier, là, avec un certain nombre de jeunes migrants qui ont dû dormir dehors, sans abri, sans rien, parce qu'ils étaient refusés. Enfin, on ne les acceptait pas, on n'acceptait pas leur venue au guichet à Auvard, parce que Auvard, c'est-à-dire le commissariat de Nice, était saturé, effectivement. Il était saturé, mais il y a d'autres commissariats dans les
appareils. Or, il faut rappeler que c'est une obligation du conseil départemental d'accueillir les mineurs.
C'est le rôle du conseil départemental de les accueillir, d'évaluer leurs besoins, de leur permettre de faire une demande d'asile dans les meilleures conditions, et ensuite, jusqu'à 18 ans, de les accueillir dans les maisons de l'enfance. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'il a 18 ans, quand il est accueilli, eh bien, il est mis dehors, sans autre forme de procès, sans... Que la plupart, beaucoup d'entre eux ne sont pas accueillis dans les maisons de l'enfance. Ils sont laissés à l'abandon, pratiquement. Et quand on dit laissés à l'abandon, ils sont la proie d'un certain nombre de réseaux mafieux qui se servent de ces jeunes pour, d'une part, pratiquer leur trafic, mais en même temps... et en même temps, ça a comme effet, par rapport à la population, de dire, vous voyez, les jeunes immigrés, à quoi ils servent, etc., etc. Je vous renvoie aux déclarations de Zemmour qui disait, les mineurs isolés sont tous délinquants.
Oui, je crois qu'on va prendre le temps d'une pause musicale après cette réflexion qui n'est pas très très positive. Et nous aborderons ensuite un sujet plus dynamique qui est le printemps des migrations. Donc écoutons « Ouvrez les frontières » de Tiken Jaffa-Coli.
On va fermer,
d'accord, hein. À côté, sûr.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors.
Nous poursuivons le thème de notre émission « Parlons des droits humains » consacrée ce soir au deuxième printemps des migrations avec nos invités Michel Aveline, Marcel Monzeglio et Jean Corbucci. En première partie, nous avons fait un petit peu le tour de ce qu'est le printemps des migrations. Rapidement, on a vu un peu les motivations qui vous avaient amené à vous impliquer dans ce mouvement et puis dresser un petit portrait relativement rapide de la situation des migrations aujourd'hui dans le monde. J'aimerais que donc dans cette deuxième partie on se penche davantage sur le festival du printemps des migrations. Donc c'est un programme qui se déroulera donc du 6 au 28 avril avec énormément de rassemblements, de concerts, d'expositions, de conférences, de tables rondes, de projections, de débats. un peu partout à Nice. Donc j'ai l'impression, en regardant ce programme, qu'il y a une volonté, il y a plusieurs volontés, une volonté d'aller déjà de quartier en quartier, comme si c'était pour aller à la rencontre des gens, finalement. Est-ce que c'est... Il y a cette volonté dans le fait de changer de quartier ?
La volonté de changer de quartier, c'est aussi de migrer, comme le nom l'indique, printemps des migrations. D'aller d'un quartier en quartier, la ville de Nice... plusieurs quartiers, il y a des quartiers déshérités, il y a des quartiers beaucoup plus avantageux. Et le principe, c'est d'informer un petit peu toute la population de ce qui se passe dans le département du 06 avec la frontière italienne et de parler à tout le monde de ce qui se passe et de faire connaître un petit peu la migration autrement que ce qu'on entend sur les grandes médias.
Vous n'avez pas la prétention d'aller dans tous les quartiers de Nice. Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui vous ont fait choisir tel ou tel quartier ?
Alors effectivement, on a des choix, mais la ville de Nice ne nous aide pas vraiment. Donc en fait, on va où on peut aller uniquement.
On reviendra effectivement sur cet aspect tout à l'heure. Une deuxième volonté, c'est de mettre l'art en avant. Sous différentes formes, il y a de la musique, de la photographie, de la poésie, de la danse, des pièces de théâtre, des films, etc. pour affirmer l'égalité des droits. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre en avant les arts lorsque l'on veut sensibiliser les gens au phénomène migratoire ?
L'art est ouvert à tout le monde. Et à travers l'art, ensuite, on peut débattre de certaines choses. Quand, après un film, après un spectacle de danse donné par une Syrienne, par exemple, après une artiste circassienne qui raconte la vie d'une migrante, d'une femme africaine, tout cela amène à débattre après. Et c'est un petit peu le but, c'est le support, l'art est le support de nos débats sur la migration.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'ouvrir l'esprit des gens à ce qui vient de l'étranger,
connaître différentes cultures, bien entendu.
Il y a, parmi les textes qui ont été sélectionnés dans le cadre du festival, j'ai noté celui de Laurent Godet, hein, qui est un écrivain français bien connu, et je me permets de lire quelques extraits de ce qu'il a écrit. « Regardez-les, ils ne nous prennent rien. » Lorsqu'ils ouvrent les mains, ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Honte à ceux qui ne voient que guenilles. Regardez bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour leur vie. D'un coup, il apparaît que nous avons de la chance. Nous avons de la chance, si c'est vers nous qu'ils avancent. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Est-ce que finalement le message, ce n'est pas que nous nous enrichissons finalement au contact de l'étranger et de ces autres cultures qui souvent nous font peur, c'est ce qu'on disait dans l'introduction. On ne connaît pas, on a peur, on rejette spontanément. Or, nous avons énormément de choses à apprendre de ces personnes. Jean ?
Oui, moi je crois que, je suis tout à fait d'accord, c'est magnifique ce texte. L'art, c'est quelque chose d'universel. C'est ce qui parle à tout le monde. Et donc, l'universalité, c'est un des principes de fonctionnement de notre République, je crois, non ? Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été publiée avant 1948, dès 1789.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Voilà, c'était pas à l'époque universel, mais bon, ça a été complété plus tard. Et donc, je crois que l'art est un des moyens de rassembler... La musique, etc.
De rassembler les gens, le théâtre. De nous ouvrir l'esprit à tout ce qu'ils peuvent nous apporter.
Voilà.
Et une autre phrase que j'ai notée. Oui, Marcel,
allez-y. Je voulais juste rajouter que, y compris lorsqu'on on rencontre des familles, il y a des fois des choses difficiles. Ce sont des humains comme nous. Il y a des situations où on a du mal à communiquer. Mais. Souvent, l'échange, il est extrêmement enrichissant et intéressant. Voilà. On ne fait pas que aider. Je mets ce mot-là vraiment entre guillemets. Mmh. Et les paroles de Laurent Godet, qui a écrit des choses magnifiques sur les migrants et les parcours des migrants, moi, ça m'évoque. C'est cette richesse de l'échange avec les enfants et leurs familles. Voilà. Et l'art, la musique, les musées, ça parle à tout le monde. D'un enfant de 3-4 ans à une personne âgée.
De 77 ans.
Absolument. Et plus.
Voire plus, bien entendu. Et effectivement, j'ai repris cette autre phrase de Nizar Ali Badr, qui est un artiste syrien, qui a écrit tout simplement « Alors, la rencontre de l'autre détruira les préjugés et nous ferons la fête ensemble. Hein » Nous ferons la fête, la joie, je dirais, de rencontrer l'autre, la joie du partage, parce que ces gens sont extrêmement riches de leur culture, et d'où l'importance de l'art. Hein, qu'il convient de partager, parce que c'est comme ça qu'on partage ce qui fait notre vie, fondamentalement, notre culture. Et est-ce que ce genre, disons, de manière de faire, c'est pas une réponse au repli identitaire qui gangrène une partie de la France et des citoyens aujourd'hui?
Ben oui, moi je crois que... vous savez, il y a un mot qui revient très souvent et qui est presque tout le temps associé aux personnes migrantes, c'est le mot « clandestin ». Et clandestin, c'est donc quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et forcément, c'est l'ennemi. Et donc, je reviens à la phrase de ce cher Eric, tous sont des ennemis. Des ennemis de la civilisation, des ennemis de je ne sais trop quoi. Et de ce fait, eh bien, le discours ambiant devient un discours, l'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, donc c'est un ennemi. Voilà. Je crois que c'est...
Et lorsqu'on le rencontre, on découvre tout à fait autre chose.
Et j'ajoute à ce que disait Marcel, qu'en tant qu'à RESF, on se rend compte du rôle de l'école dans ce domaine. Elle est un facteur d'unification. Elle est un moyen d'intégrer les enfants et de faire que les enfants qui sont intégrés partagent avec les autres. Et on n'a pas de difficulté avec les enseignants. Enfin, je crois. Hein, on peut dire que la plupart des enseignants accueillent les enfants. On a parfois des difficultés avec les administrations locales sur l'inscription des enfants, la cantine, etc. Mais je crois que l'école, comme l'art, est un moyen d'intégrer ces enfants. Voilà.
D'accord. On va en venir un peu au programme, justement. Il y a différentes thématiques qui sont à aborder dans le cadre de ce festival. Les migrations et frontières, les femmes et la migration, l'accueil des mineurs non accompagnés, que vous avez évoqué tout à l'heure, les naufragés en Méditerranée. Pourquoi le choix de ces thèmes en particulier dans le cadre du printemps des migrations?
Pourquoi
Michel,
ces thèmes? En fait, ce sont des thèmes qui sont souvent évoqués, toujours dans les médias, mal évoqués, mal expliqué, mal informé. Et nous, ce que nous voulions, c'est vraiment rétablir une vérité sur ces thèmes, en fait, sur ces femmes et migrations. On ne peut pas ne pas parler des femmes en migration. Elles sont en minorité. Elles sont en minorité. Il y a plus d'hommes qui migrent. Mais les femmes qui arrivent, elles sont dans des états pas possibles, elles ont eu des parcours épouvantables, elles ne sont pas très aidées en fait. Il faut vraiment parler de toutes ces femmes-là et on a eu des réussites. Je disais tout à l'heure, une danseuse syrienne qui a fait ses études à Monaco, qui a eu son diplôme, qui fait une thèse. On a eu des réussites d'un sculpteur à Malte, c'est ça. On a des réussites sur tous ces migrants, ces femmes aussi, qui ont réussi, en fait, qui sont arrivées ici seules avec des enfants, qui les ont élevées, on les a aidées. Et c'est un sujet très important dans la migration. Et le public doit savoir ce qui se passe, doit savoir que ce sont des femmes comme Marcel, comme moi, comme toutes les femmes qui sont ici en France.
Mais il y a quand même des difficultés spécifiques au fait d'être une femme dans la migration et dans l'arrivée dans un pays en tant que femme, seule, des fois avec les enfants, avec des grossesses. lorsqu'on se elle se retrouve enceinte et en recherche de demande d'asile. Voilà, ce sont quand même des situations et par rapport au trafic, elles ont voilà, il y a des aspects qui peuvent être dramatiques dans l'exploitation dont elles peuvent être victimes.
Effectivement, bon, nous avons eu l'occasion, sur Parlons des droits humains, d'aborder cette question des migrations un peu régulièrement chaque année, et ce constat ressort que les femmes souvent sont les premières victimes de ce phénomène migratoire, avec toutes les violences qu'elles subissent au cours des voyages, leur vulnérabilité telle que vous la soulignez effectivement. Et qui intervient justement? Quelles sont les associations ou les personnes auxquelles vous vous adressez pour animer les débats, pour promouvoir des films, etc., ou mettre en scène l'art que vous voulez mettre en avant?
Accord à côté sur...
Ben c'est, comment vous en choisissez? Fait, c'est un festival indépendant et chaque association est autonome, que ce soit RSF, que ce soit Tous Citoyens, la Ligue des Droits de l'Homme, etc. Chaque association est autonome pour organiser et promouvoir un petit peu... les sujets qui sont évoqués.
D'accord, mais il y a quand même une coordination qu'il n'y ait pas trois associations qui proposent exactement le même sujet à trois moments différents.
Oui, c'est ça, il y a une coordination d'une quinzaine de personnes, en fait.
Oui, après, c'est un travail de lien.
Après, c'est un travail de lien, et ça se passe tout à fait en autogestion, en autonomie. Il n'y a vraiment pas du tout de chef, comme à ERSF, d'ailleurs, qui est un réseau aussi.
Oui, il y a quand même pas mal d'artistes qui, lorsqu'ils sont sollicités dans ce domaine-là, qui répondent de présent.
Oui, des artistes militants qui viennent nous voir pour justement participer avec nous à cette...
Et intervenir. Alors, je parlais des thèmes, mais il y a certaines populations également qui sont mises en avant, comme les femmes kurdes, comme les collectifs de sans-papiers, les Roms. Et qu'est-ce qui a présidé justement au choix de ces communautés?
Le 7 avril, donc dimanche, c'est la journée internationale des Roms. Mm-hmm. Donc ça tombait très bien. Et il y a une association à Nice qui s'appelle l'association Prales. Oui. Donc qui va donc sur la place Garibaldi pendant 3 heures présenter ce que sont les Roms par des photos, par des danses, par de la musique, et expliquer un petit peu l'histoire de ces gens qui sont les Tziganes, les Gitans, les Bohémiens, les Manouches, etc. Parce que quand on dit Manouche, souvent c'est un peu mal vu. Enfin,
c'est dévalorisant.
Et, voilà. Et c'est pour découvrir l'histoire des Roms et leur culture.
D'accord. On pense aux femmes kurdes. Mmh. Et là, je crois qu'il y a l'université de Saint-Jean-d'Angély qui intervient avec l'URMIS.
Oui, hein,
qui met en avant notamment une personnalité, Pinar Selek, qu'on a déjà interviewée sur Parlons des droits humains, et qui est très, très active, très militante par rapport à ce genre de sujet. Et outre les populations, vous avez également un certain nombre de pays qui vont être ou qui devaient être mis à l'honneur. On verra de quelle manière ça s'organise. Vous parlez en particulier de la Palestine. C'est un sujet relativement chaud en ce moment.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre justement la Palestine en avant?
Il faut savoir qu'à Nice, depuis plusieurs années, tous les premiers samedis du mois, il y a un rassemblement pour la Palestine, bien avant les événements du 7 octobre. Donc c'est un sujet, il y a France-Palestine, il y a plusieurs associations à Nice.
France-Palestine Solidarité.
Par exemple, oui. Et il s'est créé aussi un collectif depuis le 7 octobre, où tous les samedis après-midi, il y a des rassemblements et des manifestations, donc depuis le 7 octobre, pour la Palestine, les problèmes qu'il y a en ce moment entre la Palestine et Israël. Donc c'était évident que dans ce printemps des migrations, on puisse mettre la Palestine à l'honneur.
D'accord, donc vous
c'est
assumez...
C'est quelque chose qui est à Nice depuis très longtemps. Hein.
Voilà. Donc vous assumez un sujet un peu brûlant. De ce point de vue-là, quelles sont vos interactions avec les autorités? Ça a été évoqué très rapidement en première partie, hein, parce que quand on pense à la mairie de Nice, à la préfecture, etc., ces gens-là ne sont pas connus pour être particulièrement accueillants vis-à-vis des migrants et particulièrement ouverts. Comment est-ce que les autorités voient ce festival indépendant? Est-ce que vous avez eu des réactions ou des oppositions, ou au contraire des soutiens, des mises à disposition de locaux?
Non, lors des déclarations aux préfectures, on a été très bien accueillis. Les renseignements territoriaux nous ont appelés, ils ont dit que l'année dernière, ça s'était très bien passé, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Par contre, les locaux municipaux, on n'en a pas. On n'a demandé aucune aide à la mairie de Nice, parce qu'on sait très bien qu'on aura des refus. Donc, en fait, on s'est débrouillé avec des associations, des locaux associatifs tels que la Zoumé, les Diables Bleus, à Nice, qui sont des associations culturelles alternatives, on va dire, à l'Ariane, qui ça se passe à l'extérieur.
Voilà. Oui, à propos des locaux, j'ai une autre casquette, c'est celle de l'association Les Amis de la Liberté, et qui organise le 11 avril une conférence sur les mineurs isolés avec l'association de tous citoyens et l'avocate Mireille Damiano, une personne qui était pressentie et qui était psychologue de l'enfance en difficulté. On lui a plus ou moins fait comprendre qu'il valait mieux ne pas faire partie de la table ronde, d'une part. Et d'autre part, là, contrairement à ce que dit Michel, il y a une salle, la salle Garibaldi, que nous utilisons régulièrement pour ces conférences. Oui. Pour d'autres conférences aussi. Et le problème, c'est que nous devons la payer chaque fois. L'association ne reçoit pas de subvention et paye la location de la salle avec, dit-on, des tarifs préférentiels. Bon, mais enfin, on la paye quand même.
D'accord. Ça, c'est pour les autorités. Et du côté de la population, quels échos vous espérez obtenir ou est-ce que vous pensez avoir auprès de la population et des médias d'une manière générale? Est-ce que vous avez déjà des... Sur la base de ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que vous avez déjà des impressions?
L'année dernière, donc c'était la première fois. On a décidé de le reconduire parce que ça s'était très bien passé. Mais le problème, c'est qu'on est souvent entre soi. On a du mal à faire intéresser d'autres personnes à ces causes-là, en fait. Donc cette année, on espère qu'on aura d'autres...
Des échos plus larges.
Des échos plus larges, d'autres personnes qui viennent nous voir, en dehors de toutes les associations qui sont participantes.
Et le fait d'aller de quartier en quartier vous permettra peut-être davantage d'ouvrir peut-être. Pour toucher un public plus large.
C'est un travail de longue haleine.
Ouais,
c'est un travail de fond sur le temps. Et...
Donc il faudra faire le point dans 20 ans. Hein. Il faut tenir jusque-là.
Petit à petit, mais ça fait longtemps qu'on a commencé.
Dans 20 ans, c'est un peu court, parce que nous, ça fait presque 20 ans qu'on a commencé. Et ça avance pas vite.
Ouais. Mais il y a de belles histoires. Il voilà. Y a de belles histoires.
Il ne faut pas lâcher.
Il ne faut pas lâcher ça, je crois que vous avez raison. Mmh. Et je vais reprendre juste également un autre petit texte que j'ai tiré du recueil que vous avez publié, un témoignage d'un parent d'élève, Alain, dont le fils était en classe, primaire, et puis les policiers sont venus à l'école pour chercher des enfants, pour les amener à l'avion qui expulsait leurs parents. Et il a écrit ceci: « Je suis français de souche ». Et je ne sais pas quoi dire à mon fils de 6 ans qui ne comprend pas pourquoi son copain de toujours, tout d'un coup, n'est plus là. Embarqué pour où et pourquoi? Ses affaires sont restées, elles. Et je refuse de subir cette honte et de ne rien faire devant l'inacceptable. C'est peut-être cette volonté, justement, de toucher le maximum de personnes, de sensibiliser le maximum de personnes de la population pour essayer de faire bouger les lignes et d'ouvrir... si ce n'est le cœur, au moins l'esprit et l'intelligence des gens au processus migratoire. Alors, j'aimerais qu'on se projette. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui? Les enjeux les plus importants? Quels sont vos objectifs à plus long terme pour le printemps des migrations et pour RESF également?
Pour le printemps, on espère qu'il y aura une troisième année. Pour RESF... Enfin, je pense que RESF fait beaucoup la part des autorités, des gouvernements, etc. Et je pense que
On joue un rôle, en fait, qu'on ne devrait pas jouer, vraiment. Que ce sont les autorités gouvernementales qui devraient jouer ce rôle-là. Et on espère, mais ça fait très longtemps qu'on espère, et des fois, on désespère un peu, mais on continue quand même.
D'accord. Des projets, Marcel, Jean ?
Moi, je continue à une petite échelle à accompagner des familles pour l'inscription à l'école, la cantine, le centre aéré, puis des papiers, voilà. Et je pense qu'une des pistes qui a déjà fonctionné, et j'espère qu'elle continuera à fonctionner, c'est que par moment, lorsqu'on a un problème sur une école, on arrive à faire jouer la solidarité des enseignants et des familles. On a eu de beaux exemples, on en a, et on en aura encore. Voilà. Ça ne fait pas la une des journaux, mais c'est un des aspects importants de notre travail. Parce que ça laisse des traces dans toutes les parties concernées, de solidarité, d'humanité.
D'accord, merci beaucoup. On va clore là cette seconde partie avant d'apporter une conclusion générale à notre émission. Et nous allons terminer donc par une nouvelle chanson, « Citoyens du monde » de HK et les Saltimbanques.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.
Nous terminons l'émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au deuxième printemps des migrations, avec nos invités Michel Aveline, Marcel Monzeglio et Jean Corbucci. Et justement, nous arrivons à cette conclusion. Quel message souhaitez-vous faire passer à nos auditeurs, Jean ?
Eh bien, je vais reprendre une phrase qui a été dite tout à l'heure à propos de l'esprit et du cœur. Vous avez parlé d'adhésion... du cœur, sinon de l'esprit. Or, le problème, me semble-t-il, est inverse. C'est-à-dire que, lorsque, comme Marcel l'a souligné tout à l'heure, lorsqu'il y a un problème individuel qui fait appel à la charité, en somme, à la bonté, à la compassion, on trouve la solidarité. Y compris de gens qui, parfois, dont on peut penser qu'ils ont d'autres options politiques ou syndicales, etc. C'est-à-dire que leur esprit n'est pas en accord avec leur cœur. Mais vous voyez ce que je veux dire ?
C'est l'humain qui triomphe.
Ils sont très sensibles à la situation du voisin, quelles que soient ses origines. Mais ils ne font pas le lien entre ce voisin et les discours qu'ils entendent, le discours dominant, le discours idéologique dominant. C'est ça le message que je voudrais, c'est que l'esprit rejoigne le cœur.
Merci. Marcel ?
C'est un petit peu dans la suite, c'est pourtant pas concerté, mais... C'est arriver quand même à faire passer le message que le migrant, c'est un humain comme nous. On peut être le migrant d'après-demain, nous, dans un autre pays. Et que vraiment, y compris la loi immigration qui est passée en janvier, toutes les mesures qui rendent difficile l'accueil et l'intégration, c'est contre-productif. Parce que les gens vont rester ici. Leurs enfants vont rester. Ils ne peuvent pas repartir pour des tas de raisons. La question, c'est comment les accueillir et comment s'ouvrir à cette nouvelle population qui va enrichir notre vie et pas être dans le rejet, les obstacles et la stigmatisation.
Merci de ces belles conclusions. À bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Elle sera par ailleurs rediffusée le lundi 6 mai à 21h. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains, qui aura lieu le lundi 20 mai 2024. Nous accueillerons le mouvement du planning familial. Bonne soirée à tous.